Chers collègues, cher Gilles Clément, évoquer un jardin que chacun d'entre nous laisse vagabonder son esprit un instant, qui, dans un jardin ordonné à la française, qui, dans le désordre apparent d'un jardin anglais, qui encore dans les cascades rocailleuses d'un jardin italien, ou encore rêve du jardin d'Éden ou des jardins suspendus de Babylone. Mais vous, chers collègues, vous avez une autre vision. Vous bousculez la vieille dichotomie jardin à la française, jardin à l'anglaise. Vous rompez avec la conception purement esthétique du paysage, longtemps dominante dans l'art des parcs et des jardins. Pour vous, ingénieur horticole, botaniste, paysagiste ou jardinier, comme vous aimez vous faire appeler, la création de jardins et de paysages est une occasion privilégiée d'apporter un regard nouveau sur la nature et sa dynamique. Vous êtes un fervent défenseur du génie de la nature. Selon vous, un jardin doit respecter le génie des espèces, leur libre développement et leur migration naturelle. Le jardinier est invité à observer plus et jardinier moins, à maintenir et accroître la diversité biologique, source d'étonnement et garantie du futur. Vous savez mieux que quiconque la fragilité du monde végétal, son interdépendance avec le monde animal, la part de l'homme dans son équilibre. Vous pensez que le jardin doit être aménagé de façon à refléter le grand mouvement de brassage des plantes à l'échelon planétaire. Bref, vous faites du jardin un microcosme de la biodiversité planétaire. Le jardinier est en quelque sorte un entremetteur de rencontres entre espèces, espèces qui n'étaient pas destinées à l'origine à cohabiter. Selon vous, l'homme doit aussi savoir abandonner l'évolution du paysage à la seule nature, savoir laisser en friche des espaces. C'est ce que vous appelez le tiers paysage, un espace privilégié d'accueil de la diversité biologique, un réservoir de diversité génétique et un espace du futur. Ces trois idées forces, le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage, vous les avez superbement illustrés par de très nombreuses réalisations. Je n'en citerai que quelques-unes. En France, le parc André Citroën à Paris, où le vert flirte avec la Seine. Le parc Henri Matisse à Lille, doté d'un espace central de végétation vierge, inaccessible. Le jardin buissonnant et foisonnant du musée du Quai Branly, lieu de culture et de nature. Et aussi à l'étranger, parmi d'autres, le jardin de l'arbre ballon de la cité modèle de Laeken à côté de Bruxelles, le jardin mandala à Turin, le jardin du palais Hicham à Jéricho. Non seulement vous créez, mais vous enseignez, vous écrivez, vous publiez vos théories, vos convictions et votre expérience dans de nombreux ouvrages en français et en italien. La chaire de création artistique que vous avez choisi d'appeler jardin, paysage et génie naturel reflétera la connivence entre un jardinier en recherche et un jardin à sa propre recherche. Quoi de plus naturel que de vous accueillir chez nous au Collège de France, un endroit où l'on professe précisément la recherche en train de se faire. Merci.
Bonsoir, je suis très honoré d'être ici. Je ne m'attendais pas un jour à me retrouver dans cette situation privilégiée. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, merci de m'accueillir et de me laisser la possibilité d'exercer la passation du savoir et de l'expérience au cours des leçons qui vont suivre et de cette leçon inaugurale. Quand on m'a fait la proposition de... C'est d'ailleurs Philippe Descola, et je le remercie tout particulièrement, de venir ici apporter un enseignement. Je me suis demandé comment on pouvait faire, moi qui ai l'habitude d'enseigner dans un établissement, l'école de Versailles, l'école du paysage à Versailles, où on travaille principalement en atelier. Je dis volontiers le jardin nous enseigne, parce que c'est lui qui nous apprend chaque fois, au fil des jours, ce qui arrive et qui sollicite le questionnement du jardinier lorsqu'il l'observe. Bien sûr qu'il y a une pédagogie possible là-dessus, mais dans le temps. Une leçon, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas donc un atelier, nous n'allons pas nous trouver dans les circonstances de l'atelier. Aussi, je me suis donc demandé comment on pouvait dispenser un savoir presque tout entier issu de la confrontation avec le terrain sous une autre forme que celle de l'atelier. L'atelier que je considère comme un assemblage d'énergies croisées où les enseignants enseignés par les étudiants, c'est souvent ce qui arrive, et par le terrain lui-même, c'est toujours ce qui arrive, se contentent de réajuster les trajectoires de la puissance créative pour renforcer la cohérence et la clarté de la pensée. Aussi, je remercie le Collège de France, et plus particulièrement Philippe Descola, de m'avoir invité à un exercice nouveau, faire passer le champ de nos hésitations à ceux qui, venus en étudiant, pourraient à la fin se découvrir jardiniers. Je dis jardinier et non paysagiste, parce que, bien sûr, je suis paysagiste, je pourrais choisir ce terme en préséance, mais en même temps, si je dis jardinier, que je préfère utiliser ce terme-là, c'est parce que possiblement le jardin contient le paysage. C'est parce que le jardinier est aussi celui qui dialogue avec le vivant et qui, de toutes les façons, le met en scène. On ne peut pas lui enlever cette partie-là. Alors que le paysagiste peut travailler éventuellement avec ce qui n'est pas forcément du vivant. Il a la possibilité de créer un paysage avec du minéral, avec des substances inertes, par exemple. Et puis la notion de paysage est une notion particulière, et d'ailleurs je vais donner plusieurs définitions en commençant par celle-ci. Paysage, environnement et jardin. Qu'est-ce que c'est au fond pour moi ? Le paysage, essentiellement, c'est une donnée subjective. Le paysage est perçu par chacun de nous de façon différente en fonction de la culture que l'on a, en fonction de notre individualité, c'est-à-dire de la façon dont nous ressentons profondément et tout à fait isolément ce que nous voyons, ce qui est autour de nous, ce qui nous alerte et nous imprime. C'est donc quelque chose de difficile à définir pour cette raison-là. Lorsque un jour on m'a demandé « qu'est-ce que c'est pour vous le paysage ?», c'était Augustin Berque qui me posait cette question. Je lui ai répondu « c'est ce qui reste après qu'on ait fermé les yeux » ou « bref, c'est ce qui nous a imprimé notre mémoire, c'est ce que nous avons ressenti, c'est ce qui a alerté notre subjectivité ». Et je dis aussi « le paysage, c'est l'étendue de ce qui se trouve placé sous notre regard ». Pour les non-voyants, c'est ce qui se trouve placé sous l'étendue de tous les autres sens et qui est donc mémorisé par d'autres manières, d'autres systèmes. C'est donc évidemment une définition difficile. C'est quelque chose qui est parfois partageable et parfois qui ne l'est pas du tout. Devant un paysage, par exemple, comme la Beauce, Bernard Lassus, paysagiste, m'avait fait remarquer que, visitant la France et traversant la Beauce avec des Japonais, il avait été étonné par les cris d'admiration, parce que cette étendue-là, cet espace à disposition, n'existe pas sur leur territoire. Et c'est donc remarquable. Quand on mettrait, je ne sais pas si on le faisait, un Papou et un Limougeau devant le paysage limousin, l'un qui aurait l'habitude, devant ces ondulations vertes, de dire c'est vert et vallonné, l'autre dirait peut-être c'est amer, parce que ça renvoie dans sa culture à quelque chose qui est lié plutôt au sens du goût, par exemple. Donc, pour nous, c'est évidemment quelque chose que nous avons du mal à faire rentrer dans un espace réduit de la définition. Un paysage, ça peut être une vue éloignée, voilà une approche de l'île de la Réunion, ça peut être une composition, ici involontaire, puisque c'est la fabrication c'est un paysage agricole, mais la disposition des arbres en fait d'une certaine façon un tableau. Du reste, le paysagiste, c'est un milieu réduit, mais un métier récent. Le paysagiste est celui qui autrefois peignait les paysages, et avant, ce terme n'était pratiquement pas utilisé du tout. Ça peut être un sujet particulier, un thème, comme ici, un thème lié à la production ou à l'économie. C'est sûrement presque toujours un écosystème. Par exemple, ici, cette friche, qui en soi est un écosystème, est prise entre deux lavandins qui sont des écosystèmes de l'artifice et est entourée par un écosystème climatique et forestier. Ça peut être un paysage urbain. Il n'y a pas pour ça de particularité. On ne dira pas qu'un paysage est associé strictement à l'espace rural. Il peut être urbain, périurbain, et il peut être sans échelle, complètement. Par exemple, cette herbe, ce pénicétum, appartient au paysage au même titre que les tours. Nous sommes ici à Brisbane. Ici encore, ça peut être dû à des forces considérable ou minuscule, un paysage. Ça, c'était un champignon qui s'est développé sur un pin bio, évidemment, parce que sinon, il ne se serait pas développé avec cette facilité-là, et qui donne ce paysage. Cet ensemble insaisissable, que d'autres appellent nature, se présente ici sous l'aspect rude et lisse d'un conte. Et je parle du verbe compter pour un compte bancaire, hein. Où les facteurs agissants, débarrassés de toute expression sensible, c'est l'émotion. Je suis passé du paysage à l'environnement. Vous avez vu la différence. C'est un choc. Voilà. Donc, environnement est le contraire du paysage, et je voudrais vous lire ce que je pense au sujet de l'environnement, qui est un terme que j'emploie très peu, d'ailleurs. Nous avons donc quitté la série liée au paysage comme illustration de ce propos, pour entrer dans un monde différent, ce mot créé récemment et traduit un peu brièvement et sans effort de l'anglais, et qui aboutit à une sorte d'espéranto-technique. Précisément cet objectif, précisément ça permet de tout mesurer de la même façon dans le monde. C'est un outil très utile, mais je dis, cet ensemble insaisissable que d'autres appellent nature, mais qui est soumis à la mesure, mesure environnementale, se présente ici sous l'aspect rudéliste, etc. D'un compte où les facteurs agissants, débarrassés de toute expression sensible, se traduisent en débit ou en crédit, ce qui autorise au calcul, au placement, à la spéculation. L'environnement apparaît ainsi comme la réduction comptable et apparemment maîtrisable d'une complexité biologique difficile à comprendre et à maîtriser. Alors que la vie ne cesse d'inventer et d'enchaîner l'imprévisible au prévisible, les données environnementales, calibrées et estimées, permettent ce que les données naturelles jamais ne permettaient, l'estimation et la marchandisation du vivant. Alors là, je renvoie aux accords de Nagoya, qui ont eu lieu il y a à peu près un an et qui ont des côtés très positifs, comme toutes les réunions qui se font sur des questions qui sont liées à l'environnement. Là, c'est au propos de la biodiversité, sauf qu'on apprend que 190 pays se sont mis d'accord, ce sont les accords dits de Nagoya, sur la possibilité de se partager le bénéfice de la commercialisation de la diversité mise en circuit commercial donc, dans chacun de ces pays. Là, évidemment, c'est forcément suspect et on sait que ce pourrait être d'ailleurs quelque chose d'extrêmement protecteur puisqu'il est question de protéger la diversité dans le discours de Nagoya si nous n'étions pas dans le système économique dans lequel nous sommes. Là, on pense bien que ça va partir dans le tourbillon de la spéculation. Alors, à propos d'environnement, je discute le terme d'environnement simplement parce qu'il continue de vouloir nous mettre à distance de quelque chose qui est l'ensemble de cette nature qui se trouve donc alors alentour, aux environs. C'est le contraire d'un milieu dans lequel on se trouverait immergé. Les Espagnols ont préféré le terme medio ambiente, qui veut dire le milieu ambiant, et qui pour moi se rapproche plus du principe de l'immersion, qui est celui que je comprends aujourd'hui et qui nous vient de la nécessité de nous trouver amicalement et avec, véritablement avec, les êtres de nature. Alors, environnement, je ne montrerai que pratiquement très peu d'images, parce qu'on pourrait en montrer beaucoup trop, c'est riche. Voilà Thierry Jacobé. La chenille de ce papillon mangeant le tyria, le sémillon de Jacob. Voilà l'imago, animal extrêmement sensible à la pollution par les pesticides, alors que la plante elle-même est très, très robuste. Et la régulation de Sentio Giacobbe se fait par le, évidemment par la chenille, mais quand elle disparaît, on aboutit à une extension et peut-être un envahissement, mais c'est une plante qui n'est pas dangereuse pour autant. Mais enfin, il y a là un facteur régulant qui disparaît. Bon, c'est un écho. C'est donc immédiatement, dès qu'on aborde cette question, et le monde entomologique, ce n'est pas un hasard si je le mets là, ici, en avant, rentrer dans la compréhension du jardin planétaire par les insectes est un moyen possible dans le sens où ils sont au milieu d'une chaîne qui est très, très claire à expliquer à partir d'eux en amont ou en aval. Le troisième terme, jardin, celui que je préfère employer. Alors, j'ai choisi une image ici, un peu particulière, qui montre effectivement, qui renvoie directement à la définition même du jardin qui veut dire enclos. Qui veut dire enclos et paradis tout à la fois. Le mot jardin chez nous vient de Garten, du germanique, mais le mot jardin a d'autres origines et même du persan. Il signifie à la fois l'enclos et le paradis. Donc, c'est un terme très ancien, contrairement à environnement, et qui, lui, signifie tout à fait autre chose. C'est un enclos, et au sein de cet enclos, toujours historiquement, l'homme a mis ce qu'il estimait être le meilleur, le plus important, le plus rare, peut-être le plus fragile aussi, mais en tout cas, ce qui exprime, au moment où ce jardin a été fait, l'idée du meilleur et une idée aboutie de l'époque. Si le style change, si la figure du jardin change au cours du temps, c'est que l'idée du meilleur a changé. C'est qu'on a autre chose à montrer à chaque fois au sein de ce milieu qui est particulièrement protégé. Mais je dis, et c'est ma définition du jardin, contrairement à la question du paysage, qui est quelque chose qui nous semble être un peu en dehors de nous-mêmes, contrairement à la question de l'environnement, où je disais qu'il s'agissait d'une mesure un peu technique, il s'agit là d'un lieu très privilégié qui est le seul et unique endroit de rencontre de l'homme avec la nature où le rêve est autorisé. Là, on peut rêver parce qu'on peut exprimer au sein de cet enclos quelque chose qu'il n'est pas possible d'exprimer à l'extérieur de l'enclos. Alors, si j'ai choisi cette image d'Androuet du Cerceau, c'est Androuet du Cerceau. C'est parce que c'est un dessin extrait de son livre sur les meilleurs bâtiments de France, où il dessinait aussi les jardins. Il s'agit des jardins de Blois, sur lesquels d'ailleurs j'ai eu l'occasion de travailler sur un tout petit espace par rapport à cet immense projet qui avait été réalisé, qui a duré longtemps. C'était entre Louis XII et Gaston d'Orléans, il y avait des jardins considérables qui ensuite ont été détruits. Androuet du Cerceau a vécu, on situe ces dates, c'est toujours difficile à cette époque, entre 1515 et 1585. Autrement dit, c'était évidemment un contemporain de François Ier, et comme nous sommes dans un lieu qui a été initié par lui, ça me paraissait bien de montrer une image de ce temps-là. Le jardin est donc un lieu très privilégié. À l'intérieur du jardin, le harcèlement existentiel s'évanouit. Il n'est plus question de savoir où se diriger et selon quel ordre de bienséance orienter ses gestes ou son regard. Il n'est pas question de mode d'ajustement à une prétendue modernité. Inutile d'épater les oiseaux par une quelconque performance dans un esprit managérial de compétitivité. Au jardin, il suffit d'être et cela demande un silence. Le silence dont je parle ne concerne pas l'espace de l'enclos, par nature soumis au discret vacarme des animaux, mais celui qu'il faut aller puiser au-dedans de soi-même en se débarrassant un à un des encombrants savoirs comme on le fait de vêtements inutiles. La présence au jardin suppose l'esprit nu et le corps exposé. Il est alors possible de rêver. Nous ne savons pas exactement en quoi consiste le meilleur, puisqu'il varie avec le temps. Donc, on ne peut pas lui fixer un modèle en disant « voilà, c'est ça le meilleur pour le jardin ». Ce que l'on maintenait autrefois hors de l'enclos, le sauvage, la mauvaise herbe, pénètre aujourd'hui le jardin. Il peut même en être le sujet principal. Nous pouvons nous demander ce qui a brutalement changé dans l'histoire de l'humanité pour qu'une valeur décriée devienne un trésor apprécié. Quelle est donc cette herbe qui nous dicte sa loi ? Bon, là, je vous laisse le soin d'apprécier la phrase comme vous le voulez, mais moi, je parle de l'herbe classique. Voilà un autre enclos. Celui-ci, j'en suis responsable, c'est un jardin dont on perçoit aussi le contenu par-dessus la haie, mais il est quand même clos. Il reprend les dimensions du cloître à l'intérieur du bâtiment de l'abbaye cistercienne de Valoire, dans la Somme, un grand parc de 10 hectares. Il sert d'index, il renvoie à toute une collection de végétaux qui sont situés sur les côtés. Néanmoins, il représente ou il mime quelque chose qui est une vision classique du jardin par sa structure. En voilà un autre, très petit cette fois-ci, complètement fermé, et qui valorise quelque chose de particulier. Ce n'est pas une collection botanique qui est ici jugée comme étant le plus important, le meilleur. C'est une seule plante, une herbe, cette fois-ci extrêmement banale, Poganotherum paniceum, vivant sous les tropiques. Nous sommes à la Draque de Saint-Denis, petit enclos. Les piliers que vous voyez là permettent de poser un platelage pour le cas où on aurait besoin d'agrandir le jardin lors des réceptions. C'était une des contraintes. Mais en réalité, ce que l'on a mis comme une star, ce que l'on a valorisé ici, au milieu de l'espace, eh bien, c'est une plante extrêmement modeste, celle sur laquelle on marche le long des bords de route. Vraiment, il n'y avait peut-être pas d'autre manière de la faire remarquer et de dire, oui, cette herbe aussi, elle est très importante. Mais quelque chose a changé, et c'est en relation directe peut-être avec cette dernière image. Pourquoi cette herbe est-elle si importante aujourd'hui? Nous ne savons pas, nous qui sommes tributaires de la diversité, jusqu'à quel point elle n'a pas quelque chose à voir avec nous, de façon intime et peut-être vitale. Il se trouve, et c'est un choc, quelque chose arrive dans notre civilisation tout à la fin du XIXe siècle, 1886, l'époque où Haeckel formule le terme d'écologie. On ne mesure pas encore complètement ce que signifie cette affaire-là, l'écologie. Pour deux raisons importantes. L'une, c'est qu'elle nous assure que nous sommes en connexion avec la totalité des autres êtres sur la planète. Le jardin est sorti de son propre enclos parce que, de toutes les façons, le papillon, le vent, les oiseaux, tout passe au-dessus de la barrière et de l'enclos. Et tout est connecté, c'est ça l'effet papillon. C'est le fait que si on appuie ici d'un côté du ballon qu'est la planète, il bouge de l'autre côté. Fukushima nous en donne un exemple récent, mais enfin, il y a un moment déjà qu'on sait ça. Cette interconnexion nous met dans une situation extrêmement particulière parce que ça nous associe au reste du vivant d'une manière tout à fait sérieuse. Une autre nouvelle importante et probablement plus difficile à intégrer, c'est la finitude. Nous voilà dans un espace compté. Comment faisons-nous sur un territoire qui, lui, ne peut pas s'étendre? Comment faisons-nous lorsqu'on apprend que l'eau que nous buvons a été bue, transpirée, digérée par un certain nombre de plantes et d'animaux plusieurs fois au cours de l'histoire de la planète? Nous nageons tous dans le même bain. Cette affaire-là, ce savoir dans une même eau, nous met, encore une fois, dans un état particulier, un autre rapport à la nature comme nous n'en avions jamais eu. Donc, évidemment, c'est très bouleversant. Et c'est ce qui amène, par ailleurs, et à cause de l'action de l'homme sur la planète, les écologistes, les porteurs du message, à nous dire, eh bien, écoutez, oui, les choses sont tout à fait différentes de ce qui se passait avant, mais non seulement elles le sont, mais en plus de ça, nous avons, nous, une action en tant qu'êtres vivants assez forte. Et forte à ce point qu'aujourd'hui, le terme de l'ère anthropocène arrive avec Claude Lorius qui nous fait la proposition d'accepter l'idée que notre action, nous hommes, dans cet énorme système connecté sur la planète, serait d'une équivalence à celle des actions géologiques au cours de l'histoire humaine. Donc nous voilà rentrés dans l'ère anthropocène, ce qui n'est peut-être pas non plus complètement facile à accepter, mais c'est évidemment un très, très grand changement. Alors, l'écologie bouleverse tout. Elle bouleverse notre rapport à la nature, notre vision du monde. Nous ne sommes plus en état de la dominer, de dominer le monde. Nous sommes dans une situation d'immersion beaucoup plus près, d'ailleurs, du medio ambiente que de l'environnement. Et d'un autre côté, par la nécessité et l'obligation du partage, on se trouve dans une position où disons, le modèle économique actuel n'est plus acceptable à aucun niveau. Je dis, on voit l'écologie bouleversant tout ça. D'un côté, elle atteint les croyances et les mythes, les positions de l'homme face à la nature, qui ne sont plus conformes aux Écritures. D'un autre côté, elle contredit le modèle économique du développement illimité, incompatible avec les propres limites de l'espace vital, la biosphère. Ces deux certitudes sont plutôt des constats ancrés dans nos esprits depuis des décennies ou des siècles, suffisent à faire de l'écologie une science mal aimée, mal entendue, mal transmise car culpabilisante avant d'être éclairante. Mais elle a valeur de paradigme car elle modifie notre regard sur le monde et partant notre conception de la vie. En ce début de XXIe siècle, on ne fait qu'appréhender avec réticence le véritable projet du futur en intégrant l'écologie par petits bouts, ça et là, distribuée en série de mesures cautérisantes, alors que cette pensée révolutionnaire, et je pèse vraiment mes mots, suffit à elle seule à construire un projet politique à part entière. Comment s'y prendre et que fait le jardinier ? Le jardinier, traditionnellement, depuis toujours, il construit l'espace. Il a un rôle d'architecte modeste, mais tout de même, partiellement, il le fait. Et il produit. Il est celui qui peut assurer la production des fleurs, des fruits, des légumes. Il est aussi celui qui entretient, celui qui jardine et qui chaque matin, comme je le disais tout au début, se re-questionne sur la meilleure manière de faire vivre les plantes qu'il a sous sa responsabilité, faire vivre dans le temps. Mais quelque chose de nouveau arrive, et c'est là tout le discours sur la biodiversité et notre lien avec cette diversité, puisque nous avons une action sur tout, et que peut-être nous menaçons la vie sur la planète à travers les menaces que nous faisons porter sur la diversité, le jardinier devient garant de ces espèces, c'est-à-dire il est responsable du vivant. Ça, ce n'était pas prévu. Ça, ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans sa mission, et c'est une difficulté. Comment fait-on pour protéger cet ensemble-là? Mais on voit bien, et puisqu'il s'agit de la vie, et puisque d'ores et déjà on est allé au-delà, on est allé... je dirais, à l'échelle de la planète, que ce jardinier-là n'est certainement pas une personne, mais plutôt un peuple. Alors, je montre cette image de Hildegard de Bingen parce que Hildegard, qui a fait plusieurs jardins, plusieurs monastères, elle a créé plusieurs monastères, discutait avec les plus grands de l'époque, était très savante et avait des visions qu'elle faisait peindre. Et la troisième représente l'homme au milieu de cet univers, donc c'est une vision très particulière qui est peut-être encore celle de beaucoup de gens, mais qui n'a rien à voir avec la position même de l'immersion, bien sûr. Et celle-ci, qui est à distance, nous montre le territoire dans lequel nous vivons, nous isolés dans l'espace, et peut-être peut-on percevoir à travers ces nuages qui tournent autour la très faible épaisseur de la biosphère qui est notre milieu. Donc, on en arrive évidemment par là à la notion de jardin planétaire pour une raison très évidente, c'est qu'il y a l'anthropisation totale de cette planète, comme le jardin est partout sur son espace, eh bien, l'homme est partout sur sa Terre. Il y a le brassage planétaire, j'y reviendrai un peu dessus, qui est d'ailleurs typique de ce qui se passe dans un jardin, mais il y a les limites même. On se retrouve à nouveau dans un enclos. Ce n'est plus le petit enclos que l'on avait sous sa propre maîtrise. C'est tout simplement les limites de la biosphère. Alors, à travers cette question-là, qu'est-ce que nous pouvons dire et au fond, comment pouvons-nous parler de ça? Il y a toujours, et les jardins l'ont toujours été, la possibilité de renvoyer à la planète un peu systématiquement, même si on ne le sait pas, un jardin est un index planétaire. Un potager vulgaire, il comporte des tomates et des pommes de terre, et toutes les deux viennent des Amériques, et puis ainsi de suite. Et ceci depuis très 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 longtemps, bien avant même qu'on ait découvert l'Amérique, il y avait d'autres plantes qui venaient d'ailleurs, et ça a toujours été comme ça dans les jardins. Donc de toute façon, il y a la notion d'index, mais il y a au-delà la prise de conscience par ce que je viens de dire sur les questions de la finitude, de quelque chose qui se rapproche d'une idée de jardin pour la planète. Je montre ici l'indexation. Les jardins botaniques sont des index planétaires. Bon, là, on ne voit pas de plantes, on dirait plutôt une installation artistique où il n'y a que des étiquettes, c'est un champ de noms. Mais si on s'approchait, on verrait que toutes ces plantes viennent de pays très différents du monde. C'était le jardin de l'Arquebuse, hein, à Dijon. Une autre indexation, celle-ci, récente, c'est mon jardin politique, j'en ai un, c'est celui-là. C'est le jardin de Mel, un jardin d'orties uniquement, fait à l'occasion de au moment où est sortie la loi d'orientation agricole qui interdisait l'usage des PNPP, les produits naturels peu préoccupants, une loi évidemment inique, c'est-à-dire il fallait bien que, pour qu'on invente le terme de PNPP, produits naturels peu préoccupants, que ça préoccupe quelques personnes quand même. Et donc, en effet, c'est une histoire de fric, évidemment, encore, et on se trouve là avec une interdiction inique, c'est une loi de confiscation du bien commun, le purin d'ortie, le purin de prêle, le purin de consou. Donc, cet jardin est un jardin en réaction à cette loi. Et au-delà de Urtica urens et Urtica dioica, qui sont les deux orties qu'on avait mis en œuvre là, surtout dioica, qui est celle qui est la plus présente là, elle était d'ailleurs là déjà, cette année, nous venons de rajouter dans ces cadres, qui sont des sortes d'étiquettes énormes, d'autres espèces de la famille des urticacées. Voilà une ortie asiatique qui est très belle d'ailleurs. Donc c'est encore une fois une indexation. Plus rare, l'index planétaire paysager, je n'ai eu l'occasion d'en faire qu'un seul, le jardin du domaine du Rayol renvoie au biome planétaire, c'est-à-dire à un ensemble de compatibilité de vie soumis au climat méditerranéen. C'est un jardin, du reste, dans lequel il pourrait y avoir aussi une indexation différente, strictement botanique. On ne l'a pas fait, on a refusé d'y mettre des étiquettes. Il y a un endroit où on peut interroger sur les écrans la richesse botanique du lieu, mais pas sur le terrain. Alors, je montre juste une image qui est ce jardin des cystes, il est celui qui caractérise une Méditerranée méditerranéenne. Mais sinon, le concept, lui, renvoie à tout à fait d'autres choses. Vous voyez ici, là je vais prendre le pointeur, voilà la Méditerranée, mais voilà la Californie, voilà le Chili central, l'Afrique du Sud, la région du Cap, l'Australie du Sud-Ouest avec un peu de Nouvelle-Zélande et aussi un peu de Chine. Bon, au sens très large, un biome méditerranéen, c'est cet ensemble paysager qui est développé dans au domaine du Rayol. Donc, on se trouve, après, c'est un constat, le jardin planétaire, ce n'est pas une prise de position idéologique, c'est un constat. On se trouve dans une obligation du partage comme on ne l'a jamais été, je veux dire, une conscience de cette obligation du partage. Que fait-on avec l'air et avec l'eau? Je suis passé jeudi, je crois, sur le Pont des Arts, où il y avait on honorait la mémoire de Hélène Mitterrand qui se battait pour l'eau. Elle essayait de faire passer l'eau en tant que quelque chose qui est un bien commun offert à tous gratuitement. C'est-à-dire que, bien sûr, on paierait, comme toujours, on le fait, les adductions, mais pas le mètre cube. Avec un défaut à cette proposition, c'est que tout ce qui est gratuit dans nos sociétés peut très bien être considéré comme gaspillable. Mais peu importe, l'idée que l'eau déjà nous ait été confisquée est importante à connaître, à savoir, à comprendre, à intégrer complètement. Qu'allons-nous faire avec l'air? Nous sommes en obligation de partage, vous voyez. Et je dis, c'est pourquoi les processus de captation du bien commun, organisés par les puissantes entreprises multinationales, le décompte et la marchandisation du vivant, par exemple, agissent à l'encontre de l'équité dans la mécanique du partage de ce bien commun qu'est la nature. La totalité du modèle économique sur lequel reposent nos sociétés fonctionne de cette façon et s'oppose frontalement au jardin planétaire, non seulement en déréglant les équilibres du partage équitable des biens, mais aussi en altérant la capacité biologique du jardin lui-même, menaçant ainsi la vie sur Terre. Dans ce jardin-là, le jardin a besoin d'urgence d'un assistant talentueux et rêveur, un nouvel économiste. Mais comment se fait-il qu'un jardinier ait besoin de faire appel à un économiste? Cette idée ne serait jamais venue à l'esprit si je n'avais pas fait le constat du désastre du modèle dans lequel nous sommes, et ça concerne mon métier. Donc, pas uniquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça touche tous les domaines, bien entendu. Qu'est-ce que ce serait qu'un nouvel économiste, un économiste rêveur? C'est probablement pas ce qu'on connaît, quoique j'en ai rencontré, j'en ai vu, qui faisait des propositions tout à fait intéressantes et qui touchaient directement le métier que je fais, que nous faisons, nous, paysagistes. J'ai discuté avec Bernard Liétard, qui se dit architecte monétaire et qui propose des monnaies complémentaires, des relocalisations, des systèmes qui ont fait leur preuve parce qu'il existe déjà, soumis à ces genres de propositions-là, des institutions, quelquefois même des villes entières, qui ont engagé des nouveaux modèles de vie. C'est donc vers cela que je me suis orienté, pour savoir, mais au fond, qu'est-ce que nous... Parce que nous, nous sommes sollicités sur ces questions de manière assez directe. On nous dit, où allons-nous mettre les potagers? Mais pourquoi? Mais parce que c'est vivrier, parce qu'on est dans un rapport à la nécessité et à l'urgence. C'était des choses qu'on n'avait pas il y a encore 10 ans. Donc ce nouvel économiste n'envisage pas la mise en œuvre et l'évolution du jardin en se pliant aux lois du marché. Il porte son attention sur ce qui installe et valorise le vivant, sans assistance, en s'inspirant des capacités naturelles de celui-ci à s'autogérer. J'en arrive évidemment au génie naturel. Autrement dit, il économise. Alors là, je renvoie au joli ouvrage de Bernard Stiegler qui parle de cette question, et à un moment donné, dans un chapitre, il dit que économiser, c'est prendre soin. L'économie naturelle, lorsqu'on est jardinier et qu'on l'observe, c'est saisissant. Quand un arbre perd ses feuilles, c'est parce que l'hiver approche, parfois c'est parce que quelque chose d'autre l'a traumatisé. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il se soustrait à la possibilité d'évaporer. Il économise son eau. Et on l'a vu en 2003, lorsqu'il y a eu une période de sécheresse, eh bien, les arbres ont perdu leurs feuilles, tous les feuillus caducs ont anticipé, et vers le mois d'août, ils n'avaient plus de feuilles du tout, entre le 15 et août et le 15 septembre, puis ils ont repoussé plus tard. Et donc, parce que l'eau était revenue, ils avaient économisé. Ceux qui ont le plus souffert sont ceux qui n'ont pas su économiser, les végétaux persistants en l'occurrence, et beaucoup sont morts à ce moment-là. Une graine dans le désert, qui est une plante térophyte, admettons, c'est-à-dire à cycle court, va être là pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'arrive le bon moment pour qu'elle puisse germer. Mais ça peut durer 10, ça peut durer 20 ans. Elle économise, elle est vivante, mais elle ne se mettra en position de dépenser qu'à partir du moment où ce sera possible. Donc, cet économiste rêveur, il a quand même les pieds sur terre et il établit deux grands principes que les sociétés humaines semblent avoir oubliés, en tout cas en ce moment, le non-endettement et la localisation des échanges. Le non-endettement correspond à la gestion des flux entrants et sortants, l'eau, sels minéraux, énergie solaire, qui s'équilibre sans créer de déficit, augmentant ou diminuant en fonction des offres et des nécessités, sans plus. La localisation des échanges semble caractériser le monde végétal assigné à demeure, tandis que le monde animal, en mouvement, pourrait s'en affranchir, et ça, c'est pas complètement exact. En réalité, les plantes, comme les animaux, migrateurs ou non, élisent un site à leur convenance en instaurant le meilleur système d'échange pour la moindre dépense possible. Tel est le biotope, milieu choisi par l'être en quête de conditions naturelles compatibles avec ses exigences de vie. Je ne dis pas qu'il faut que nous vivions tous comme les plantes et les animaux, mais je pense qu'il est intéressant de s'inspirer de la façon dont ils vivent. Et de toute façon, on comprend par là, et les travaux sur les biomes nous en assurent, qu'on a besoin de cette vision très, très, très élargie, mais pour, au niveau de l'application, se refocaliser sur un lieu. Les échanges localisés se font dans un souci de la non-dépense. Alors, l'idée du meilleur pour mettre dans ce jardin, en ce début de siècle, que j'exprime par faire le plus possible avec et le moins possible contre les énergies en place, serait peut-être de mieux comprendre ce que peut être le fonctionnement de cette nature, comment elle marche véritablement. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas les réponses là-dessus, parce que nous en savons extrêmement peu. Deux questions se posent. Ainsi localisé dans un rapport d'échange inféodé au biotope, le jardin prétendu libéré de son enclos d'origine viendrait-il à s'enclore à nouveau, instaurant des barrières d'échange matérielles ou des barrières idéologiques. Il y a une série de positions très radicales en écologie qui, justement, peut inquiéter. Un tel jardin pourrait-il s'accommoder des formes connues et répertoriées par l'histoire ? Quelle architecture, quelle esthétique, quel art pour l'idée du meilleur aujourd'hui ? Là, je reviens sur le territoire propre qui est celui de l'art, pour la raison pour laquelle j'ai été invité. Bon, en réalité, le protectionnisme est complètement illusoire. Les échanges se font. Même s'il existe des barrières, un biome a ses barrières. Une plante qui est originaire d'un climat, d'une zone climatique du monde, aura beaucoup de difficultés à aller vivre dans une autre zone climatique, évidemment. Ces barrières-là, quoique mouvantes, donc, existent bien. On est évidemment soumis, comme je l'expliquais, aux dynamiques du brassage planétaire par une série d'échanges proches et lointains. Et chaque fois qu'il y a, disons, un accident sur la peau de la Terre qui la mettrait à nu, tout de suite arrivent des pionniers qui, souvent, sont des plantes exogènes ou des animaux exogènes qui n'ont pas leur régulateur de croissance et de vie, qu'ils n'ont pas transporté avec eux depuis leur pays d'origine et qui prennent le terrain. Mais il n'y a pas lieu de s'en affoler, puisque quelque chose arrive qu'on appelle donc la réponse du milieu. Je dis la composition floristique et faunistique du biotope, on pourrait dire du jardin, évolue avec le temps. Elle donne naissance à ce que la science aujourd'hui, dans un élan de compréhension à l'égard de tout ce qui advient sans prévenir, appelle un écosystème émergent. Nous sommes presque toujours en situation d'écosystème émergent aujourd'hui. Un écosystème émergent n'est autre qu'un territoire de réajustement des énergies exogènes, un lieu permanent du brassage planétaire, agissant comme une des mécaniques principales de l'évolution sur Terre. Une espèce venue de loin, fiable dans un biotope élu, deviendra avec le temps et avec ce qu'on appelle mystérieusement une réponse du milieu, une espèce écologiquement assimilée à ce milieu. Donc je montre là une image qui avait été conçue d'ailleurs pour la Biennale d'art contemporain de Mel en 2009 et qui montre un de ces systèmes avec des échanges locaux mais des échanges aussi distants et ça se rapporte aussi bien à la biologie qu'à l'économie. Et dispersé partout sur la planète de cette façon-là, c'est-à-dire à l'image d'un mouvement brownien et non pas soumise à une centralisation ou à un pouvoir fédérateur. Je montre quelques îlots donc fonctionnants, qui sont des petits biotopes, qui montrent à l'issue d'un brassage planétaire dont on ne connaît pas toujours l'origine, mais l'homme y est pour beaucoup dans cette histoire, des petits écosystèmes émergents. Voilà la capucine, originaire du Mexique, sur un Muhlenbeckia de Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, fabriquant un paysage qui n'existe finalement que là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une nouvelle identité paysagère qui apparaît. Ici, un rosier chinois au Chili, Rosa moscata, mais le rosier chinois, il n'y avait pas de genre rosa dans l'hémisphère sud du tout. C'est donc arrivé par les hommes, ce sont des échappés des jardins, qui sont rentrés dans les friches à la faveur des nouveaux biotopes issus du délaissement dans le fameux tiers paysage qui était évoqué tout à l'heure. Et ici, joue un rôle très intéressant dans l'accession au climax forestier puisque c'est un épineux et qu'au sein des épines, les plantes poussent, les arbres, les ligneux, mieux protégés par eux, mieux protégés des prédateurs. Or, ils sont beaucoup plus grands que les berbéristes locaux qui sont les épineux indigènes. Voilà encore un autre écosystème émergent, un mésembryanthemum cristallinum, une petite plante qui brille sous la lumière, mélangée à une plante chilienne. C'est une plante originaire d'Afrique du Sud et on est au Chili. Puis alors, cette plante-là, très mal vue, vagabonde, photosensibilisante, donc créant des plaies quand on se met au soleil et qu'on l'a touchée, supposée, dite, décrite comme invasive et donc très, très mal montrée du doigt, mal vue. Elle est dans mon jardin, je l'aime beaucoup, évidemment. Et je la jardine, je fais ce qu'il faut. On peut s'arranger d'Heracleum antegadianum, plante originaire du Caucase. Elle est d'ailleurs ici dans la flore indigène de la Creuse. Et voilà son petit écosystème. là, avec elle, quelques coléoptères, des cétoines, des cérambix, quelques diptères, etc. Alors, ce perpétuel réajustement nous oblige à nous re-questionner constamment. Je dis, et c'est là qu'on doit revisiter notre contrat qui est copié sur celui des architectes, le jardin ne finit pas. Et nous avons un contrat qui est comme celui des architectes, on dit, au moment où le bâtiment est à la réception, eh bien, c'est fini. Nous, quand on a réceptionné le jardin commence et il ne finit jamais. Tout ça évolue. Tout ce qu'on vient de dire, c'est purement de la dynamique, rien d'autre. Donc, perpétuel réajustement, le jardin ne finit pas. Je dis le jardin est dans le jardinier par le fait que, évidemment, le jardin dépend du jardinage chaque jour. Que devient sa forme dans le temps ? Là, ça nous regarde, nous, directement, en tant que concepteurs, quand nous prenons un papier et un crayon, ou un ordinateur, enfin, et que nous commençons à dessiner. Qu'allons-nous faire si, finalement, la forme nous échappe ? Parce que nous avons mis en prééminence de tout la question du vivant qui transforme tout. Alors, en effet, dans un espace fini, on peut se poser la question de ce que c'est que l'extension, de ce que c'est que l'agrandissement des formes, l'aménagement. Voilà l'extension d'une ville. Si on flèche de gauche à droite dans le sens de lecture dans nos civilisations, eh bien, on voit que ça grossit, que ça occupe le terrain, par exemple, le terrain des terres arables. Peut-être que dans les interstices, il y a des espaces verts, peut-être, c'est possible. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous n'y sommes plus. Nous savons plutôt que nous n'y sommes plus. Nous sommes dans une situation où, au contraire, l'espace est à nouveau clos parce qu'il est circonscrit, parce que la finitude écologique dont je parle est une finitude spatiale aussi. Donc, sans doute, faut-il que nous réinventions constamment le dessin du jardin au sein du même espace. Mais ça veut dire le projet de vie, pas seulement le dessin du jardin. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui, évidemment, est au balbutiement. C'est pour ça que l'écologie est un choc. On peut le mettre dans n'importe quel sens. Vous voyez, on avait fléché dans un sens, voilà, dans un autre. D'ailleurs, là, on n'est plus dans le fléchage linéaire. Ça nous met en relativité par rapport même aux questions de temps. Voilà des exemples. Ce sont des étudiants du lycée Jules Rieffel qui, dans un espace déterminé, celui-ci est le même toujours, ils l'ont appelé le pré de lumière, ils y font quelque chose de différent à chaque fois. Ça fait 7 ans que l'expérience existe, ça s'appelle le jardin en mouvement du lycée Jules Rieffel. Et en effet, on les voit tracer des choses différentes, des chemins, des accès pour leur projet. Une fois, ce sera pour ouvrir une porte dans le relais forestier, une autre fois, pour accéder à une plante qui a de l'importance pour eux. Ça dépend donc de leur projet, ou pour faire un espace, une place, où il est question d'accueillir quelque chose, des gens, peut-être. À partir du milieu du XXe siècle, et bien que cela répugne aux désirs expansifs de l'humanité et aux règles, excusez-moi, je reviens toujours là-dessus, mais il faut le dire, irresponsable de son économie dominante, il n'est plus possible d'envisager l'évolution formelle de l'espace comme un simple déploiement, une simple prolifération des inventions de l'esprit, devenues objets et matières oblitérant durablement la peau de la terre. En épuisant les surfaces du corps, le tatouage vient à bout de sa propre expression. Il ne lui reste plus qu'à effacer pour tout recommencer. Est-ce possible ? Là, quelque chose d'important pour nous. J'évoque ici Laborite au moment où il dit pour la nature, pour le vivant, plus exactement, le vivant, c'est pas employé le mot nature, la forme, c'est l'information. C'est le message. C'est quelque chose qui est reçu, qui est enrichi, complexifié et renvoyé. Mais ça, c'est de l'ordre de l'immatériel. Donc on peut très bien comprendre que sur le plan de l'immatériel, de l'immatière, un mot qui n'existe pas mais que j'emploie quand même, il y ait la possibilité d'une expansion, évidemment, mais pas sur le plan de l'espace et de la matière. Donc ça nous amène à penser tout, y compris évidemment le jardin, de façon complètement différente. L'information s'apparente au virtuel. La forme s'apparente, alors là c'est Internet, hein. La forme s'apparente au réel concret, à la matière, elle se déploie dans l'espace fini, donc elle est épuisable. Nous, jardiniers, Pouvons-nous abandonner la composition formelle de l'espace, si lisible, si spectaculaire, au profit d'un échange de messages dont, au demeurant, nous ne comprenons pas grand-chose ? Ceci au nom de la vie. Comment intervenir dans l'obscure et invisible communication physico-chimique des espèces qui nous entourent ? Que signifie précisément « effacer pour tout recommencer » dans un modèle de société où l'effacement demanderait autant d'énergie, peut-être plus, que la création d'origine ? Alors, évidemment, j'en viens au génie naturel, qui est un des termes dans le titre de cet exposé. Le jardinier est en dialogue avec cette nature. Peut-il faire appel au génie naturel en dialoguant avec elle ? Là, je montre des exemples, deux exemples seulement, qui, pour moi, représentent vraiment le génie naturel. Il y a là deux arbres, Samanea saman, plante exotique, ici prise en Australie, mais enfin originaire d'Amérique, peu importe. On voit les velvet ferns, ces manchons de fougères épiphytes, mais un feuillage très léger. Et on voit surtout, parce que la photo est prise complètement comme ça par en dessous, que ces deux arbres, leur frondaison ne se recoupe pas, ne s'interpénètre pas, ne se superpose pas. Il y a une lumière qui apparaît ici et que les scientifiques appellent une fissure de timidité. Ça, c'est manifestement parce qu'ils n'ont pas d'autre mot pour dire qu'il se passe là quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il y a forcément un dialogue ici, un échange. Et d'ailleurs, dans chacun de ces houppiers a également le même comportement vis-à-vis du houppier voisin sur le même arbre. Le même arbre, lequel arbre est généralement aujourd'hui conçu par les mêmes scientifiques, non plus comme un individu, mais comme une colonie. En tout cas, ces deux colonies ne se rentrent pas les unes dans les autres. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il entre eux ? Je n'ai pas de réponse, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas pour l'instant. Il n'empêche que c'est constaté. On a recensé une trentaine d'espèces timides dans les forêts tropicales. On en aurait aussi dans les forêts européennes. Un autre exemple, la toute petite herbe, Hieracium pilosella, une composée, on dit aujourd'hui une astéracée, qui se trouve ici dessinant un cercle. Alors là, on sait ce qui se passe. Elles émettent une toxine au bout de leurs racines qui désherbe. C'est un désherbant, si vous voulez. Bon. Donc, elles chassent les graminées autour. Mais est-ce qu'on sait se servir de ça, nous ? C'est quand même offert par la nature, ce désherbant-là. Il n'est pas toxique, pas plus que ça. Au fond, les graminées, elles seront un peu plus loin. Elles ne sont pas mortes, disparaissant pour autant. Donc, comment allons-nous jardiner demain ? En utilisant les capacités du génie naturel. Par génie naturel, il faut entendre le pouvoir des espèces animales et végétales à régler naturellement leurs rapports en vue de se développer au mieux dans la dynamique quotidienne de l'évolution. La nature, dans sa complexité, a mis au point un grand nombre de signaux, avertissements, déclencheurs de réactions en chaîne, régulateurs de surpopulation, assistance et prédation qui jardinent le territoire sans aucune intervention humaine. Cette débauche d'énergie s'opère en réalité dans une économie d'échange au rythme d'une musique naturelle que chacun peut entendre. Le cri d'un oiseau, la stridulation d'un orthoptère, le vent dans un feuillage qui porte l'information d'un prédateur ou d'un ami, tout est message. Maintenant, admettons que nous sachions nous en sortir avec ça. On est au début. Mais quel est le rôle de l'artiste ? Que fait l'artiste ? Alors, ici, je fais une proposition pour dire, mais puisque, voilà, un plan, une image, qui est plutôt une vue de haut, admettons, d'un espace sur lequel on est intervenu, puisque la nature s'agite ici et là, c'est ce symbole que j'ai choisi, c'est-à-dire cette vibration, eh bien, nous allons intervenir sur peut-être la fabrication d'une perspective, mais quelque chose de très modeste. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe ici et là est très important. Et que nous en avons besoin, et que notre jardin en parle, c'est le meilleur d'aujourd'hui. Alors, on devient l'artiste des points, des traits, comme ça, en fait, des limites, quelque chose de marginal. Mais est-ce que c'est ça, notre rôle, complètement ? Est-ce qu'il n'est pas, à ce moment-là, tout à fait minoré ? D'ailleurs, si on enlève le travail de la nature, il ne reste plus grand-chose. Et peut-être pas tant, finalement. Parce que parvenir à ça signifie que l'on aurait intégré la compréhension du tout. Ça veut dire qu'on aurait été dans la capacité de nommer la totalité des espèces et de comprendre comment se passent les messages entre chacune d'elles, là, pour le coup, c'est une science considérable, et nous n'en sommes qu'au début. Donc, cette action-là, elle n'est pas mineure du tout. Nous avons besoin d'une école du génie naturel, elle n'existe pas encore. Il y a quelques écoles qui se sont fondées, d'ailleurs tout à fait récemment, et qui parlent du jardin planétaire ou de la reconnaissance de la diversité en ville et ailleurs, mais ça n'est pas suffisant, bien entendu, qu'on a besoin de comprendre plus. Nous avons compris que le système, fût-il émergent, issu du brassage planétaire et en constante évolution, n'est pas réductible à l'évaluation comptable des agences de notation, gadget à l'usage des peuples infantiles et des joueurs de poker, j'insiste, mais un ensemble complexe impliquant la profondeur de l'âme en même temps que les caprices du vent et la transformation d'une goutte de pluie en un flocon de neige en un lieu unique et non renouvelable, la planète. Pour avancer et construire le projet de demain, le jardin de demain donc, il nous reste au moins deux champs d'investigation qui posent des questions difficiles, mais qu'il faut peut-être résoudre ou penser à y résoudre assez vite. Le premier, c'est l'absolue nécessité du recyclage, et le second, c'est notre rapport au temps. Absolue nécessité du recyclage, puisque nous sommes dans un espace fini. Alors évidemment, nous ne pouvons pas aller au-delà d'une certaine limite. Peut-être a-t-on encore un peu de champ devant nous. C'est possible. Et dans un jardin, on est bien placé, parce qu'on n'arrête pas de tout recycler. Ça, le jardinier le sait. Il n'a pas la conscience qu'il fait un geste remarquable lorsqu'il réutilise son compost. Il ne sait pas à quel point cette chose-là est emblématique de tout un système vers lequel nous devons aller. Mais comment fait-on? Est-ce qu'on peut recycler l'ordinateur, je ne sais pas en quoi d'autre d'ailleurs, quelque chose qui serait un autre objet, peut-être une voiture, une consommation, je ne sais pas. On ne sait pas très bien le faire, on ne sait même pas du tout. Donc il y a un chantier qui est considérable. Juste à ce propos, avant d'aborder une image sur le recyclage, le traitement des limites valorisant un espace, le travail de l'artiste. Ici, c'est un tout petit travail associé à celui de la vache, c'est la taille de la vache qui limite la hauteur des charmes. Mais toute l'activité se situe à la fois dans la haie et dans l'herbe. Un autre travail sur les limites qui est un socle, le parc Matisse de Lille, et l'île d'Herborance, c'est le nom donné à cet objet, est porteuse d'une nature, c'est la nature qui a fabriqué son propre paysage sur ce sommet, 2500 m² perché à 7,50 m de haut. Le travail est ici mineur dans l'espace et majeur en mise en scène. Un travail des limites très fin entre deux manières de gérer le jardin de l'ENS, l'École normale supérieure lettres à Lyon, avec les activités les plus fortes dans les jardins en mouvement gérés sur les côtés. Et ici, on peut dire, voilà, une limite formelle, dure, minérale, et a priori, qui restera longtemps, et une activité permanente, un foisonnement de diversité qui transforme l'espace constamment, toujours dans le même jardin que voici l'ENS de Lyon. Une autre façon de voir la question de la limite qui, cette fois-ci, est centrale par un système de plages, fait une partition en deux dans un des jardins sériels du parc André Citroën. Ou encore au jardin du musée du Quai Branly, avec seulement cette limite-là, et le reste s'agite. Des plantes dans l'eau, des plantes sur le sol. Le recyclage est absolument nécessaire. Je montre cette image parce qu'une ville a anticipé à toutes sortes de niveaux. Hein. Là, je ne mets que l'image du slogan. Olishokena. Olisho veut dire un déchet qui n'est pas un déchet. Mais on doit tout recycler. D'ailleurs, là-bas, ils recyclent tout, y compris les matériaux de construction pour faire les maisons, etc. C'est inventé depuis longtemps, une quarantaine d'années maintenant. Il s'agit d'un échange. Les usagers des favelles, tous les 15 jours, apportent au camion un tas d'objets qui sont recyclables et on leur donne en échange des produits consommables, invendus du marché, mais des produits frais du jour. Ils repartent avec autant de kilos, mais en fruits, en légumes, en choses comme ça. Donc le recyclage là-bas est pensé depuis très longtemps et c'est un exemple d'ailleurs connu, hein, dans le monde, mais très très rare, sur le principe généralisée du recyclage. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a, comme je vous le disais, la construction, il y a l'usage de tous les petits services dans les services techniques des espaces verts que j'ai visités, les pots dans lesquels on élève les plantes sont des pots de maté recyclés, etc., etc. Mais en même temps, ça c'est la matière. Dans la question de l'immatière, il y a l'enseignement. Voilà un des faroles del saber, c'est-à-dire les phares du savoir, sont des petites bibliothèques, c'est une maquette. Mais elles existent, construites et en très grand nombre dans la ville, un peu partout, devant les écoles. Parce qu'on apprend là ce qu'il faut faire pour recycler, tout petit. Et dans les PIA, qui sont des petites écoles pour les enfants, on apprend ça, justement. Incroyablement intéressant, et surtout qui anticipe, qui va loin, qui voit loin. Donc je voulais parler de Coritiba pour ça. Et voilà une image qui va avec les dessins précédents, toujours pour la Biennale de Mel, et qui symbolise la question du recyclage complet, et qui pose un problème. L'arbre est une image idéale. L'arbre fait son feuillage qui retombe, il repuise à travers ça de la nourriture dont il se sert partiellement, mais enfin, il a besoin certes de l'énergie du soleil, mais c'est un recycleur remarquable. Une question se pose. Si nous recyclons tout, que devient la ville recyclable? Des architectes ont déjà travaillé dessus, ont commencé à travailler là-dessus. Évidemment, en recyclant, on enlève une trace. En ce qui nous concerne, nous savons bien que la trace que nous laissons dans les jardins n'est pas si importante. La nature est co-auteur. Nous avons un partage obligé. Elle est co-signataire du jardin que nous faisons, et s'il n'y a plus le jardinier, elle se débrouillera. Les traces culturelles, par le recyclage, peuvent s'effacer les unes les autres. À ce moment-là, on efface une partie de la mémoire. Donc la ville future, celle du recyclage, la ville recyclable, elle est à mémoire ciblée, c'est-à-dire qu'il faudra que l'on fasse très attention, certainement, à ce que l'on veut garder pour ne pas perdre une mémoire en tant que trace culturelle. Donc ce serait cette ville plutôt un compromis d'architecture éphémère et d'architecture durable transformée en jardin. Et puisque nous sommes dans l'obligation du recyclage, le projet urbain de demain pourrait bien s'inspirer de cette partition entre le recyclage industriel et le recyclage naturel. Nous avons besoin d'imaginer, de se servir de l'un qui existe et d'imaginer l'autre, l'un dépensant l'énergie de l'autre. C'est un chantier considérable. Il est juste, comme je le disais tout à l'heure, au tout début. L'artiste du jardin atomisé, celui dont on a vu les expressions tout à l'heure, est donc celui qui voyage d'un écosystème à l'autre et qui saura, par comparaison et grâce au voyage, c'est-à-dire grâce à une vision globale, proposer la meilleure solution locale. J'emploie des termes qui sont connus et qui sont très applicables ici. Alors, je termine avec une question qui est donc l'autre préoccupation après le recyclage, le temps, l'objet temps. Je dis objet temps parce que pour nous, c'est ça. Nous travaillons avec cette dimension d'une façon singulière. Tout ce que nous faisons se déploie, est prévu pour se déployer dans le temps. Le jardinier ne peut pas faire autrement que de l'accompagner, ce temps, de vivre avec, parce que les saisons sont là, et quel que soit l'artifice, on n'empêchera pas la terre de tourner comme elle tourne, pour l'instant du moins, donc on sera soumis à un certain temps. Et il ne se heurte pas, par conséquent, comme on le fait tous les jours dans la vie, à ces questions-là, celles du temps. Et je voudrais, à ce propos, parler de quelque chose que l'on utilise extrêmement peu. Chez nous, dans notre métier, la graine. On utilise peu la graine qui retient le temps. Pour des raisons, évidemment, on peut le comprendre, d'efficacité du spectacle. Il faut, quand on met en œuvre un espace, que tout de suite la construction apparaisse, que ce soit des arbres, on va les acheter en pépinière et on les prend gros d'ailleurs. Quelquefois même, ils ont 30 ans déjà, enfin ils ont poussé depuis longtemps. Bon, à partir de la graine, on fait très peu de choses. Un petit peu plus aujourd'hui, mais tout de même extrêmement peu. Or, la graine en soi est quelque chose d'incroyablement puissant. Elle peut résister longtemps, comme je le disais à propos de celles qui sont dans le désert en attendant les bons moments pour germer. Elle est là comme quelque chose qui retient le temps et qui, à un moment donné, et c'est quand on le veut, si on les utilise, pourra faire, en se déployant, un paysage précisément. Nous sommes, à partir des semences, nous sommes assurés de créer des paysages adaptés, car elles savent ce que nous ne savons pas, le choix du bon moment, celui du juste temps. C'est à la fois la vie et le temps que nous tenons entre nos mains. Bon, il y a aujourd'hui, malheureusement, une énorme et considérable spéculation sur les semences qui prive le jardinier d'un usage normal de la totalité des semences sur la planète. Et à ce propos, d'ailleurs, un mouvement dit des semeurs volontaires qui est destiné à maintenir une diversité que l'on empêche d'exister toujours pour les mêmes raisons du marché. Je ne reviens pas dessus, mais c'est terriblement grave. Alors, je vais juste montrer pour finir ces incroyables, quelques exemples de ces incroyables êtres vivants que sont les graines, qui sont des êtres complets et qui n'ont pas pour autant pas l'air. Voilà, à partir d'un glomérule d'eucalyptus, un semis de graines par terre. Vous voyez ces tout petits points, chacun d'eux contient un arbre, aussi grand que celui-là, par exemple. Un grand eucalyptus pris au nord des Flinders Ranges, au nord d'Adélaïde, en Australie. Voilà une graine que j'ai là. Vous voyez, elle est comme ça. C'est une graine d'une légumineuse qui est presque comme un bijou. Elle contient le temps. Alors, j'ai le temps dans ma main. Et elle pourrait germer. Il suffirait de la mettre dans les bonnes conditions pour ça. Ça fait un moment que je l'ai, mais elle est vivante. Donc, je la remets dans ma poche. Voilà la plus grosse graine du monde. Et si je la montre, celle-ci, c'est la noix de coco. C'est parce que elle a quelque chose à voir avec le brassage planétaire, le jardin planétaire. Elle flotte. Elle est emportée par les ouragans et elle va aller se déposer n'importe où sur la couronne tropicale. Elle ne pourra pas sortir de son biome. Elle est inféodée à cette zone. Mais néanmoins, on ne connaît pas l'origine du cocotier. Parce que, justement, il a voyagé par lui-même. Même si les hommes ont toujours voyagé aussi avec lui, il a voyagé certainement d'abord tout seul. Donc, le voilà transporté et germant quelque part sur une côte d'une île sous les tropiques. Alors, les deux dernières images. Si je montre cette image-là, c'est parce qu'elle met en péril presque la totalité du discours que je viens de tenir. Il se trouve que ça n'est ni un jardin, ni un paysage. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec le génie naturel. Ce sont des fourmis vertes. Et ça a un rapport direct avec ce film que peut-être vous avez vu de Werner Herzog qui s'appelle Le rêve des fourmis vertes et où on voit toute une population d'aborigènes, c'est en Australie, qui s'oppose aux bulldozers qui viennent creuser le sol. Il est impossible qu'on blesse la peau de la terre à cet endroit-là. C'est le pays où rêvent les fourmis vertes. Je suis allé dans le nord est de l'Australie, le Top End, et dans cette région, vers Lockhart River et un peu avant, vivent ces fourmis. On est un peu en territoire aborigène, et je suis revenu avec ces fourmis en photo, mais surtout avec le constat que les aborigènes ne faisaient pas de jardin dans un pays où il était possible de les faire. Ils sont sédentarisés depuis plus d'un siècle. Les Blancs qui vivent avec eux ont des maisons juste à côté, les mêmes, avec des enclos dans lesquels ils peuvent faire des jardins. Ils le font. Eux, jamais. J'ai posé des questions. On m'a dit non, ils ne font pas de jardin. Ben non, on ne connaît pas, ils n'en font pas. Revenu en France, j'ai fini par avoir, à travers un poème que l'on m'a confié, une explication, ou en tout cas une interprétation possible. Pour cette civilisation-là, il est question donc d'une vision du monde. L'esprit rêve et l'esprit s'adresse à la fourmi que vous voyez là. et lui demande de rêver. Elle sait rêver, mais elle ne connaît pas le secret du rêve. Donc l'esprit va voir la fourmi, la souris, marsupial évidemment, etc., qui rêve, qui sait rêver, mais qui ne connaît pas le secret du rêve. Alors, ainsi de suite, jusque, bien sûr, passant par les marsupiaux qu'on connaît bien, les kangourous, et arrive à l'homme qui rêve, qui sait rêver, mais qui connaît le secret du rêve. Alors l'esprit est fatigué, parce qu'il a beaucoup travaillé pour arriver à tout ça. Et donc il se couche dans la terre. Il est dans le sol. Mais il n'est pas question de toucher à ça. C'est impossible. On ne peut pas l'ouvrir. Cette blessure est inimaginable. On ne fait pas de jardin. Et le jardin, pour eux, c'est peut-être la totalité du continent. Le paysage, c'est quoi? On n'en sait rien. Ils le communiquent par des champs. C'est une autre manière de voir le monde. Il faudrait, à partir de là, refaire la totalité de l'exposé que je viens de vous faire en se mettant à la place d'une autre vision du monde, une autre cosmologie, une autre façon de voir. Alors revenons chez nous, pour finir, parce que malgré tout, nous ne sommes pas des aborigènes australiens. Je prends le risque de montrer cette image-là, qui a un côté peut-être un peu naturaliste ou romantique, mais surtout naturaliste. Mais je le fais parce qu'on est à hauteur des herbes, précisément, en situation de l'immersion. En face d'Aporia crategi, cet insecte dont l'arbre nourricier, le crategus, c'est-à-dire l'aubépine, est extrêmement répandu, mais lui en péril à cause des pesticides. Et puis la scabieuse et quelques herbes. Au jardin, le système du temps gagné ou perdu s'effondre de lui-même. Il n'a simplement aucune raison d'être. La thérapie naturelle du jardinage vient du temps suspendu, celui que l'on ne maîtrise pas, mais qui, d'une certaine façon, nous tient debout. Lorsqu'on met une graine en terre, c'est un devenir qui s'annonce. Le passé s'efface. La nostalgie au jardin n'a pas cours. Le jardin est un lieu privilégié du futur, un territoire mental d'espérance. Alors, j'invite les oisifs, les prétendus inutiles, les lents, avec leurs ordinateurs express, hein, c'est pas la question, les inutiles, les lents, les accidentés de la vitesse, à venir construire le projet de demain. Nous avons besoin de leur résistance à l'immédiate réponse, de leur capacité à s'étonner, à prendre le temps et le laisser suivre son cours. Ensemble, nous pourrons nous attarder à la simplicité d'une fleur, son éclat dans la lumière, cette annonce d'un fruit, une aventure promise, une graine, une invention forcément. Nous pourrons en faire le dessin et peut-être lui donner un paysage. Nous pourrons même lui donner un nom. Alors, elle existera. Merci de votre attention.